Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Les matins politiques avec Stéphane Robert ce matin. Stéphane Le Foll, faut-il le préciser, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et également porte-parole du gouvernement de très nombreux sujets dans l'actualité vous concernant aujourd'hui. Notamment aussi, regardez le regard de Louison. Mais oui, nous avons inauguré
Bonjour,
depuis
Louison.
Maintenant trois semaines. C'est le troisième vendredi, Louison.
Oui.
Alors on a amélioré quelque chose, c'est que pour me signaler le dessin que vous ferez et qu'on diffuse, vous avez le choix entre deux clochettes, celle-ci, ou comme il y a le ministre de l'Agriculture aujourd'hui, celle-ci. Vous avez une préférence pour laquelle ?
Écoutez, je vous laisserai choisir,
et donc on tentera Bichette. Bon, l'agriculture française s'est fait épingler en début de semaine par la Commission européenne, et l'État devra rembourser des aides versées de façon non justifiée par Bruxelles pour un montant total de 1,070 milliards d'euros, en cause notamment les défaillances du système d'identification de parcelles agricoles éligibles, une pénalité qui ne sera pas remboursée par les agriculteurs, mais par l'État d'ici 2017. Faut-il parler de fraude ou d'erreurs à répétition commises par les agriculteurs français ? Connaissant mal leurs droits ou leurs devoirs, eux qui se plaignent souvent du caractère kafkaïen des normes administratives qu'on leur impose. Bref, par ailleurs, Stéphane Le Foll, vous inaugurerez en début d'après-midi aujourd'hui au ministère de l'Agriculture l'an 1 de l'agroécologie. Après l'échec du plan Ecophyto, décidé en 2008 et visant entre autres à réduire le recours aux pesticides dans l'agriculture française, vous voulez faire de la France le leader de l'agroécologie. Écologie. Nous verrons avec vous ce qui se cache derrière ce terme et surtout quelle est votre stratégie pour rendre l'agriculture française plus propre sans lui faire perdre toutefois sa rentabilité. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux agriculteurs français en exigeant de plus de rentabilité ou plus d'efficacité dans l'exportation, alors même que des accords de libre-échange sont signés avec l'Ukraine et le Canada et que vous souhaitez voir, vous, le cycle court privilégié dans le domaine de l'agroalimentaire. Bref, comment mener une politique agricole qui ne soit pas truffée souvent de paradoxes ? Mais tout d'abord, je m'adresse aussi aux porte-parole influents et puissants du gouvernement que vous êtes, Stéphane Le Foll. On dit toujours,
merci.
Il a l'oreille du président, Stéphane Le Foll. Deux sondages, un sondage IFOP pour Marianne publié hier, et un sondage CSA pour nos amis de RTL publié aujourd'hui, donne dans tous les cas Marine Le Pen qui arriverait en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et celui de RTL d'aujourd'hui dirait que de toute façon elle serait battue au second tour, quelle que soit la configuration des principaux candidats présents face à elle. Elle monte de 5 points, on la donnerait à 30% à peu près d'opinion favorable et donc de ce résultat de premier tour. Ça fait 5 points de plus que le dernier sondage. Commentaire, Stéphane Le Foll.
Commentaire, tout simplement que je mesure très bien sur le terrain que je connais le fait que le Front National est extrêmement élevé aujourd'hui. Que ce qui s'est passé au-delà de l'unité, de la force de la mobilisation des Français, laisse aussi un espace pour tous ceux qui vont contester à la fois cette diversité de la France, cette capacité qu'elle a à porter une part de l'universel. Donc ça...
Bref, le 11 janvier ne dit pas tout de la France de demain.
La preuve. Et donc il faut être plus que jamais avec les valeurs de la République et le sens de la responsabilité à la hauteur du défi qui nous est posé. Voilà moi ce que j'ai à dire. Les sondages tels qu'ils sont faits... Je vais me donner une règle ce matin à France Culture, c'est d'éviter de les commenter, parce que comme il y en aura toutes les semaines, je risque de parler beaucoup pour ne pas dire grand-chose.
On va se donner une règle, c'est qu'on va tout de suite y passer à autre chose, vous avez raison.
En
revanche, sur la question tout de même importante et grave de l'unité nationale, du pays qui se trouve parfois en mal d'identité, certains parlent d'identité malheureuse, je ne sais comment vous interprétez les choses, comment voyez-vous tout de même, alors justement, ce que serait aujourd'hui une politique de gauche ? Il y a eu beaucoup de critiques, de fait, après les événements que l'on sait, sur, au fond, le bilan d'une gauche, certains disent, au fond, qui n'a pas fait son travail sur ces questions-là, alors que c'était son, a priori, cœur de métier, la question de l'intégration, politique sociale, de la laïcité.
Bon, d'abord, il y a une gauche qui a été absente de la responsabilité pendant plus de 10 ans, entre 2002 et 2012. Bon, donc il y a d'autres politiques qui ont été conduites. Il faut quand même aussi qu'on se rappelle ça. Que deuxièmement, elle est arrivée depuis...
Oui, mais la gauche inventa « Touche pas à mon pote », hein, quand
oui, bien sûr, elle inventa beaucoup de choses. Faut-il avoir dans l'invention... Pas simplement l'esprit d'innovation, mais l'esprit d'efficacité. C'est ça le sujet. Et dans ces sujets, sur ces sujets plutôt, qui sont extrêmement complexes, c'est des choix qu'on doit faire à un moment, mais qui doivent porter leurs fruits plus loin, plus longtemps après. C'était, au fond, le choix de l'éducation et de la jeunesse qui avait été fait par François Hollande dans sa campagne et avec les créations de postes dans l'éducation. On ne va pas découvrir aujourd'hui le fait que, déjà, avait été perçue la nécessité de renforcer ce qu'est l'éducation avec deux sujets majeurs à l'époque. C'était le décrochage. 150 000 jeunes qui décrochent, qui sortent sans aucun diplôme. Qu'est-ce qu'ils font après ? Et puis deuxième point, le fait que notre système, en termes de mobilité sociale et en termes de résultats par rapport à un certain nombre d'évaluations, avait régressé. Donc on a un enjeu majeur, bien sûr. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. Les grandes questions posées sur le rapport à la laïcité. Et en particulier chez les jeunes. Pour moi, il y a un sujet spécifique. Le rapport au sacré avec les caricatures, on a vu. Ils n'ont pas caricaturé Mahomet, d'accord ? Quand on leur dit, mais ils caricaturaient tout le monde et le pape aussi, oui, mais ils n'ont pas le faire. Sujet que nous, une certaine génération, on n'a jamais, on ne s'est jamais posé ces questions-là. Donc on a une question sur l'éducation, la perception, l'analyse du rapport aujourd'hui différent à la question religieuse et au sacré. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se passe dans la jeunesse.
Et peut-être qui sait au dessin, c'est pas le fait religieux qu'il faut enseigner davantage dans les classes, mais peut-être
le dessin, la caricature, oui, bien sûr. Ouais. Alors après, je vais pas rentrer dans tous les détails. Puis il y a un deuxième élément, j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions de la musique, le screaming et tout ce qui va avec. Grand sujet que je connais, vous l'avez deviné parfaitement. L'Internet. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a un espace qui s'est créé. Un lieu hors institution. J'ai été frappé, moi, juste après les événements, de voir les trois jeunes, dont deux ont été tabassés, un autre, puisqu'ils avaient eu un débat sur Facebook qui avait échappé aux parents, qui avait échappé à l'école. Mais ça, c'est une question aussi, hein. Comment on fait ? L'éducation, elle a aussi à prendre ce nouvel espace.
La réponse, c'est le service civique que promeut François Hollande, mais dont le Figaro dit que c'est pas une mauvaise idée a priori, mais qu'il n'y a quand même pas un rond pour le financer.
Non, c'est pas une mauvaise idée.
Et que les Français, ils sont assez sensibles, aussi, dans les sondages.
Oui, les jeunes aussi, moi je l'ai vu, j'ai vu deux...
Oui, mais enfin, il n'y a plus d'argent dans les caisses, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Le service civique, il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut savoir aussi, on a été capable à la fois de réduire la dépense publique et d'être sérieux, tout en finançant des grandes priorités. J'oublie jamais, vous disiez la politique de gauche, j'oublie jamais aujourd'hui qu'on crée des postes dans l'enseignement, qu'on crée une formation pour les enseignants, des choses qui n'existaient pas, qu'on va mettre en œuvre, que sur la santé, on débat et on est critiqué sur le tiers payant pour offrir un accès à la santé plus facile à tous les Français. Tout ça, ça se fait en même temps avec des questions budgétaires qui sont évidemment des questions sur lesquelles on est extrêmement sérieux pour éviter l'explosion et ce qui se passe ailleurs. Mais à partir de là, éducation, c'était sur le sujet du moyen et du long terme, je pense qu'il y a un processus à engager. Et il faut qu'on soit dans le discours des républicains, profondément républicains. Je pense qu'on l'est dans cet équilibre entre la liberté, entre l'égalité et la fraternité. Et ça, c'est le message aussi qu'on doit faire passer.
Aussi funèbre soit cette actualité, finalement elle profite au Premier ministre et au Président de la République qui remontent dans les sondages.
Écoutez, je ne vais pas parler comme ça. Je considère simplement que les Français ont jugé l'action qui avait été conduite dans ces moments et ils l'ont jugé positivement.
Stéphane Robert.
On a l'impression quand même que vous avancez un peu à tâtons, comme si, vous disiez tout à l'heure, il y a eu 10 ans d'autres gouvernements, comme si vous n'aviez pas vraiment préparé, là, sur les questions de société, sur ce qui se passe dans les quartiers. On a l'impression qu'on revient sur un espèce d'angélisme de gauche, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui s'y passent alors qu'on ne voulait pas voir auparavant. Sur les questions économiques, il y a eu tout un programme de campagne de François Hollande, et puis un an et demi, 2 ans après, on met en place une autre politique que celle qui était prônée à l'époque. On a l'impression que vous avancez à tâtons, que vous découvrez les choses petit à petit, que ça n'a pas vraiment été préparé pendant 10 ans que l'opposition a été au pouvoir.
Stéphane Le Foll.
D'abord, sur la question économique, François Hollande, pendant la primaire, a été assez clair. La compétitivité, c'est un enjeu. Il l'avait rappelé. La réduction des déficits, il l'avait affirmé. Ce qui faisait d'ailleurs que, dans le débat, au départ, tout le monde pouvait considérer que ça serait difficile. Et beaucoup pariaient sur l'échec. Mais ça a été dit, parce qu'on avait bien pris conscience de la difficulté. Ensuite, ce qui s'est passé, et c'est vrai, Et c'est toujours la confrontation réelle qui fait qu'on doit s'adapter. L'inintelligence, ça serait de penser que quand on est confronté à la réalité, on n'est même pas en capacité de s'adapter. Sur la question de la crise, la zone euro était bien plus gravement touchée que ce qu'on avait pu nous-mêmes imaginer. Que le fait que, quand on soit arrivé, la question qui était posée, c'est de savoir si la Grèce quittait la zone euro. Et on voit qu'on en rediscute après, mais on a stabilisé une zone euro, ça a pris plus de 6 mois, mais ça, c'était quelque chose, je m'en souviens, dans tous ces débats qu'on avait sur les questions économiques, entre nous, les brainstorming, réduction du déficit, jamais on prenait une dimension européenne qui est directement liée à ce qu'on doit anticiper et de ce qu'on doit faire. Donc ça, ça a été plus important, et donc on s'est adapté. Puis la question de la compétitivité, après le rapport Gallois, c'est vrai que le crédit d'impôt compétitivité, il n'était pas dans les propositions, mais il était sous-jacent à l'idée de la compétitivité qui était dans les 3 pactes qu'avait présenté François Hollande, je le rappelle, en 2009 à Lorient, le pacte éducatif, le pacte productif et le pacte redistributif avec la fiscalité.
Ça vous a donné du cœur à l'ouvrage et un peu d'espoir, la victoire de Syriza en Grèce,
c'est la Mais ça donne du cœur à l'ouvrage. Ça donne
tout le monde s'est retrouvé très Syriza tout d'un coup quand même au lendemain, même Michel Barnier.
Tout oui, oui, j'ai bien vu qu'il y en a qui étaient très heureux et qui pensent que ça y est, tout va changer. Bon... On va les laisser à leur enthousiasme. Non, ce qui a été indiqué par les Grecs, c'est d'une logique politique implacable. C'est qu'après ce qu'ils ont vécu, et après ce qu'on leur a demandé comme effort, que ce soit sur les baisses de salaire, c'est pas baisse de salaire.
Oui, et puis baisse, les vraies baisses.
Baisse au niveau de la santé, des remboursements, oui. Baisse sur les retraites. Ça, c'est des choses qui ont subi. Ils ont exprimé un besoin de souffler, de dire, écoutez, on ne peut pas faire autrement, parce que nous, on n'en peut plus. Bon, voilà le message de Syriza en Grèce. Et il faut l'entendre, c'est tout le débat qu'on a depuis le début, et moi je l'ai eu il y a déjà quelques années au Parlement européen, quand on a eu la crise, ça a été, ah là là, il faut réduire les déficits. Il n'y avait plus que ça, je m'en souviens, j'étais bien placé pour dire à chaque fois, mais arrêtez, il y a bien sûr la réduction des déficits, moi je suis quelqu'un de responsable, mais on doit ouvrir d'autres perspectives, sinon on va réduire tout ça à... Combien de pourcentage de déficit budgétaire ? C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est à la fois la réduction, parce qu'il faut faire très attention hein, quand la Grèce est dans la situation où elle est dépendante des prêts qu'on lui fait. Totalement dépendante.
Pour l'instant, elle annonce un programme économique et social dont elle n'a pas le moyen de le financer.
Et voilà, donc la discussion, ça doit être de donner, de répondre aux Grecs, de leur dire, il faut qu'on prenne en compte ce qui a été exprimé, et en même temps, on sera et on est obligé de rappeler qu'il y a des contraintes qui vont faire aussi que ce qu'ils pouvaient espérer soit peut-être moins à la hauteur. Hein. Mais on va être dans le dialogue. Et la France a un rôle à jouer, le président de la République aussi.
Ça, j'entends une brebis qui fait ding-dong.
Oui,
ça veut dire qu'il y a des intérêts.
Attention aux loups. Hein,
d'abordez pas les sujets qui fâchent. Ouais. Alors, décrivez-nous, montrez-nous-le et décrivez-le en même temps, parce qu'à la radio, on n'a pas encore tout à fait réglé l'image, mais ça va venir.
Ça va venir. Ouais.
Et notamment, il va être tweeté dans quelques instants. Et
je ne vous ai pas obéi, monsieur le ministre. J'ai reparlé de ce dont on ne doit pas parler, c'est les sondages, mais j'avais déjà commencé mon dessin.
Vous n'êtes pas là pour obéir, en plus, je vous signale.
En plus, tombe bien.
Alors, il s'agit de quoi ?
Donc, je reprends cette idée, cette information du sondage de Marine Le Pen. Crédité à 30% d'intention de vote. J'ai dessiné une vache, ce que j'aime beaucoup faire le vendredi matin. Et cette vache dit, il n'y a pas que moi qui deviens folle. Voilà.
Voilà, allez, le dessin va partir en
aussi
tweet.
Sec.
Aussi sec. Et sur le site franceculture.fr. C'est pas de vache qu'il est question, mais c'est de bonnet d'âne pour la France. 1078 milliards d'euros d'amende, l'agriculture française s'est fait rattraper par la patrouille européenne, Stéphane Le Foll. Alors, on va préciser une chose, comme ça vous serez à l'aise, c'est pas votre gestion à vous qui est en cause, cette histoire-là.
Commence déjà mieux.
Ouais, hein. Mais sauf qu'après, patatras.
Qu'est-ce que j'ai entendu, moi ?
Patatras,
des amis 1078
milliards d'euros à rembourser à l'Europe. Alors, c'est l'État qui va faire le chèque et pas les agriculteurs. Et en plus, la majorité de ces milliards... Corse, parce qu'il n'y a pas de cadastre en Corse comme en Grèce, excusez-moi. Oui.
Bon, alors, j'ai essayé d'être assez clair. 2008-2012.
Vous avez 2 minutes.
Les aides sont versées sur des surfaces en agriculture. Donc les agriculteurs déclarent ces surfaces pour pouvoir toucher l'aide.
Enfin, quand il y a un cadastre, on est d'accord.
Quand il y a un cadastre, mais enfin, après, il y a des satellites.
Oui, il n'y a toujours pas de cadastre.
Voilà, ils surveillent. Okay, et on prend des photos en satellite. Nous, on avait un système qui faisait que les photos étaient prises de manière assez étalée. La commission a contesté. Alors, je dirais, c'est étalé, vous vous rendez compte, par exemple, vous déclarez une surface et puis il y a un hangar qui est construit. Où il y avait une mare. Elle n'est pas déclarée, elle est déclarée. Ils font un test, ils prennent des photos sur la France et ils disent, ah, en fait, il y a une erreur de 5% sur ce que vous déclarez. par rapport à ce qu'on voit, nous, en satellite. Et puis, ils étendent tout ça à la surface de la France, plus grand pays européen, donc 2%.
Alors, si on étale le non-cadastre, effectivement, de la Corse à toute la surface de la France, on comprend qu'on soit dans le rouge complet.
La Corse, c'est rien. C'est rien du tout. Oui. La Corse, elle touche 50 millions.
Il faut toujours
millions
être prudent avec la Corse,
50, je vais y aller en Corse. 55 millions d'aides au premier pilier. Non, mais c'est vrai. Deuxièmement, ce n'est pas des fraudes. Il y a des erreurs, on les corrige. Le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que la suspicion qui est faite sur la distribution des aides conduit à ce que l'amende, ce n'est pas corriger l'erreur et payer ce qu'on n'a pas bien versé, c'est carrément un forfait. On paye 2% d'amende, c'est-à-dire 1 milliard. Ils nous demandaient d'ailleurs, l'Europe, 3,5 milliards.
Oui.
On a contesté parce que leur système d'échantillons était tout à fait contestable. On a travaillé pendant 6 mois, et je salue tous les services du ministère pour contester ça. On a réduit ça à 1,5 milliard. Mais c'est un forfait, on ne devrait pas payer autant. Les autres ont payé pareil. Hein. L'Allemagne, ça a été 2%.
Ouais. Enfin, attendez, et vous savez quand même, monsieur
le Foll. La Grande-Bretagne et l'Espagne, pareil.
Monsieur le ministre, si moi je touche trop d'argent de Pôle emploi ou de la CAF, je suis tenu de le rembourser.
Et bien, c'est
pourquoi pas les agriculteurs?
Eh bien, vous touchez, nous remboursons au-delà de ce que nous avons, ce sur quoi on a été contesté. Au-delà, c'est un forfait. C'est ça que je vous dis. Et je pense d'ailleurs, je vais le dire ce matin, que pour ce qui me concerne, j'enverrai un mot à M. Juncker pour que, à l'avenir, sur ces questions, une erreur doit être corrigée et on doit payer ce qui a été en trop versé et pas avoir des amendes et des systèmes forfaitaires comme ceux qu'on a aujourd'hui.
Vous parlez presque comme
ça, c'est pour l'Europe.
Vous parlez presque aujourd'hui, Monsieur le Ministre, comme un représentant de la FNSEA. Écoutez Dominique Barrot, secrétaire général de la FNSEA, qui dit oui, c'est la faute à personne sauf à l'administration.
Si un agriculteur a reçu trop d'aide, je vous rassure, il les rembourse. Mais là, ce qu'on lui conteste, ce n'est pas le versement de l'aide, c'est sa surface. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, on trouve une surface, à Paris une autre, et sur son cadastre, il a la réalité. Un agriculteur, il a des mètres carrés, des hectares. L'administration nous demande de faire des déclarations numériques sur des traits autour des parcelles, et le contrôle est effectué à partir de photos. Donc, trois instruments de mesure, trois erreurs possibles. Ce n'est pas les agriculteurs qui sont en cause, pour le coup. C'est le système de contrôle des déclarations des agriculteurs où entre la France et l'Europe, ils se mélangent les pinceaux, pour être clair, entre leurs différents outils de mesure. C'est comme si vous alliez dans une boutique où on vous dit allez, on prend les euros, les dollars et puis le yen. Si vous payez en dollars et qu'on vous rend de la monnaie en euros, peut-être qu'on aura du mal à vous faire la pointe. C'est exactement ça le problème qui est posé. Donc simplifions.
Et simplifions. Enfin, peut-être faisons un cadastre en Corse, tout simplement.
Mais je crois que vous avez un petit tropisme là, du matin, là.
Ben non, mais on reproche aux Grecs de ne pas en avoir.
Non, mais il ne faut pas se tromper. Je veux dire, ce qui concerne la Corse est un sujet spécifique. Ce qui concerne cette pénalité, c'est un sujet large. Et je redis qu'un agriculteur qui, par exemple, n'a pas déclaré correctement, ne touche pas d'aide. Il les rembourse, hein, le dis quand même.
Mais d'un mot, vous le trouvez où, l'argent quand même à rembourser?
On a été obligé de le budgéter. On a été obligé de le budgéter sur trois exercices budgétaires. Croyez, de toute façon, je vais vous dire une chose.
Alors, moi, on paye la dette grecque, on va payer les agriculteurs corses.
Bon. Je suis en train de préparer la prochaine PAC. La réforme de la PAC, avec tous les systèmes, avec le verdissement. Je ne vous dis pas techniquement ce que ça représente, parce que tout le monde croit que c'est facile. Moi, je vais être très clair maintenant. Je vais tout faire pour que le prochain ou les prochains ministres ne se retrouvent pas dans ma situation. Mais je peux vous dire aussi...
Parce qu'en effet, vous en héritez,
et je peux vous dire aussi qu'il faut qu'on ait un débat avec la Commission pour simplifier et avoir plus de subsidiarité. Tant que les enveloppes sont respectées, tant que les règles sont respectées, on doit avoir un système plus fluide et plus simplifié. Et ça, c'est un débat qu'on doit avoir avec la Commission, et je l'aurai.
Stéphane Le Foll, invité des matins, on vous retrouve à 8h15 en deuxième partie. Deuxième partie introduite comme chaque jour par Brice Couturier.
Oui, bonjour monsieur le ministre, bonjour Marc. Je voudrais vous parler de la productivité de notre agriculture. Nous sommes passés derrière les Allemands sur les marchés mondiaux. Nos agriculteurs se disent écrasés par les taxes, bridés par une manie réglementaire sans limite. Alors comment faire en sorte de rétablir nos positions, la position de nos productions agricoles sur les marchés mondiaux?
Ce sera la deuxième partie des matins avec Stéphane Le Foll.